Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
La première.
I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
Les clés médias.
Aux États-Unis, de plus en plus de grands groupes investissent dans ce qu'on appelle le métaverse.
Marie Van Kutsem.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés Médias. J'espère que vous êtes bien accrochés. Aujourd'hui, on vous emmène dans un monde virtuel quelque peu oublié. On explore le métavers. Alors on dit le métavers, en réalité il y en a plusieurs, mais on se souvient surtout il y a 5 ans du lancement en grande pompe de Meta par Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook était alors persuadé que le métavers était l'avenir du numérique. Un monde virtuel en 3D qui utiliserait les codes du monde réel et dans lequel on pourrait relationner, travailler et consommer. Force est de constater que le projet n'a pas rencontré le succès prédit par Zuckerberg. Pour autant, les métavers existent toujours et ont leurs adeptes. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ces espaces remodèlent les relations humaines? C'est tout l'objet de cette émission, mais tout d'abord, retour aux sources des métavers.
La première, les clés médias.
Imaginer un monde virtuel où l'on pourrait s'échapper du monde réel est une idée qui habite la science-fiction depuis des décennies. Mais c'est en 1992 que le mot « métavers » est utilisé pour la première fois par Neil Stephenson, un auteur américain, dans son livre dystopique « Le samouraï virtuel ». On retrouve très vite ce concept dans un film devenu culte.
Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
The Matrix, le film des Wachowski, sorti en 1999, imagine un futur où les humains ne perçoivent qu'une simulation virtuelle du monde, organisée par les machines qui ont asservi l'humanité.
C'est une projection mentale de ton moi digital.
Alors, rien de tout ça n'est réel?
Qu'est-ce que le réel?
En 2018, Steven Spielberg sort le film Ready Player One, encore plus proche du concept.
Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis.
Dans un monde futur terrassé par le changement climatique et la crise énergétique, toute l'humanité s'évade en se connectant à l'oasis, un monde virtuel, une sorte de jeu vidéo multijoueur.
Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Un monde que certains veulent s'approprier, puisqu'il s'agit d'une manne de pouvoir et de retombées économiques gigantesques. Dans ces récits, le réel sert de terreau de base à la science-fiction, mais l'inverse est sans doute vrai aussi. Alors revenons dans le réel.
L'univers de Second Life grandit à vitesse grand V. Chaque mois cette année, sa population a grossi de 15 à 20. Aujourd'hui, Second Life compte 660 000 résidents virtuels, dont 33 000 Canadiens. C'est le plus grand des mondes sociaux parallèles qui n'est pas un jeu et où on peut clavarder avec ceux qu'on rencontre.
En 2003, la société américaine Linden Lab lance Second Life. Second Life, c'est un premier métavers grand public, un univers virtuel en 3D dans lequel chacun, chacune peut se créer un avatar, un personnage, et évoluer, acquérir des vêtements, des objets, des terrains, des bâtiments, relationner avec les autres, se balader. Ça intrigue beaucoup, et les marques s'y intéressent, les investisseurs, mais aussi les politiques. En 2007, en France, c'est une année d'élections présidentielles.
J'ai passé la matinée chez Ségolène Royal, mais virtuelle.
Bon, est-ce que vous avez reçu l'invitation de Ségolène Royal?
Laquelle?
Bah, regardez.
Bonjour, je suis heureuse d'inaugurer le 748e comité Désir d'avenir sur Second Life. Venez-y nombreux et vous m'y retrouverez.
Voilà, Second Life, c'est notre premier sujet. Deuxième vie virtuelle, c'est sur le net, un autre monde où la campagne présidentielle bat son plein.
Mais après 4 années d'engouement, l'intérêt se tasse. Le modèle économique est compliqué pour les marques et la crise des subprimes aux États-Unis détourne les investisseurs et le grand public sur autre chose. En 2021, pourtant, il semble qu'un nouveau momentum soit arrivé. On sort tout juste du Covid, on a passé beaucoup de temps enfermé chez soi à découvrir les réunions à distance, le télétravail, bref, la vie virtuelle. Mark Zuckerberg annonce un nouveau nom pour son groupe qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp.
It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
Et ce nom, Meta, c'est toute une vision de l'avenir du numérique qu'il incarne, celle du métavers.
Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful.
Hey, are you coming?
Yeah, just gotta find something to wear.
Dans une longue vidéo de présentation, Zuckerberg détaille tout ce que l'on pourra faire dans ce métavers en s'y baladant lui-même. Avoir sa maison avec la vue dont on rêve, importer des films, des photos, créer des salles de réunion virtuelles, acheter et vendre. L'engouement est énorme, on en parle partout.
Il sera possible d'habiller son avatar, ça peut paraître un petit peu surréaliste.
Il y a 2 semaines, Facebook a changé de nom pour devenir Meta et a annoncé ses grands projets pour ce qu'on appelle le métavers. Depuis, les géants du divertissement veulent s'inviter dans ce monde virtuel.
Bien plus qu'un lifting, c'est une toute nouvelle expérience que nous propose Meta de rentrer dans une nouvelle dimension.
Il faut dire que tout s'aligne sur le papier. Horizon Worlds, le nom de son métavers, c'est un projet ambitieux porté par un homme qui a beaucoup de crédit médiatiquement. La technologie suit, avec notamment le casque de réalité virtuelle, mais aussi des manettes avec un retour de sensation, avec la technologie de la blockchain aussi, qui permet de lancer les NFT, ces certificats virtuels uniques qui servent quasiment de monnaie en ligne. Les investisseurs se précipitent sur Horizon Worlds. On y achète des terrains virtuels, on y construit des magasins virtuels, on y organise des événements. Mais c'était peut-être le pari de trop pour Mark Zuckerberg. Un an plus tard déjà, la bulle spéculative autour des NFT éclate, l'intérêt pour le métavers s'amenuise. Il faut dire que ça reste difficilement accessible au grand public, avec un casque de VR qui coûte plusieurs centaines d'euros. La sauce ne prend pas vraiment, les acteurs économiques quittent le bateau. Pourtant, des métavers, il en existe encore en 2026. Mais qu'est-ce qu'il s'y passe aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur les relations humaines en ligne? On en discute avec notre invité. Bonjour David Berliner.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, professeur à l'ULB, et vous travaillez sur les communautés d'utilisateurs de réalité virtuelle sociale sur VRChat. C'est un métavers. Alors un petit point vocabulaire peut-être pour commencer. Comment on définit un métavers? Quelles sont ses caractéristiques? Et qu'est-ce qui le distingue par exemple d'un jeu vidéo?
Oui, alors moi j'utiliserais la notion de métavers au pluriel déjà, parce qu'il n'y a pas un métavers qui serait un espace global, généralisé, dans lequel... on pourrait évoluer. Par contre, on a toute une série de métavers qui sont des plateformes digitales qui sont soutenues par des entrepreneurs différents. Alors, je dirais que ces métavers, on peut les définir comme des univers digitaux en temps réel qui sont persistants, c'est-à-dire qu'ils vont continuer
à vivre même si on est éteint,
dans lequel vous allez pouvoir vivre des expériences immersives en 3 dimensions. Que ce soit interagir socialement, vous amuser, acheter, faire du sport ou que sais-je. Donc, la plupart du temps, par la médiation d'un avatar, donc votre présence dans ces univers va être médiée par un avatar, qui est une représentation électronique de vous, si vous voulez, une représentation digitale. Et la plupart du temps, en utilisant un casque de réalité virtuelle, même si, alors ça, on pourrait débattre avec des collègues qui me diront non, les métavers, c'est pas obligatoirement avec un casque de réalité virtuelle, mais la plupart du temps, je dirais que l'expérience immersive du métavers, elle est liée justement à ces technologies de la 3D et du casque de réalité virtuelle.
Ça veut dire que vous, en tant qu'anthropologue, pour faire votre travail, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et hop, vous allez vous balader et observer ce qui se passe dans VRChat.
Voilà, c'est exactement ça. Après avoir fait des terrains plus classiques en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, où il fallait faire des milliers de kilomètres en avion pour rejoindre un terrain de recherche, il y a quelques années, eh bien, j'ai enfin réalisé mon rêve de faire de la recherche depuis mon canapé. Donc juste en enfilant effectivement un casque de réalité virtuelle et en s'immergeant dans ces mondes pour tenter d'en saisir les règles, la manière dont les gens s'y socialisent, les pratiques, comme un anthropologue le ferait pour des réalités sociales non digitales.
Et donc ça ressemble à quoi ? Il y a des espaces publics accessibles à tous et puis des mondes un peu plus privés, c'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ?
Alors, nous, on a travaillé principalement avec mon équipe de recherche, on a travaillé dans VRChat, donc qui est une plateforme qui a été créée en 2014 en Californie et qui se caractérise par une multitude de mondes qui sont construits par les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça, c'est comme Second Life. Les utilisateurs pouvaient construire eux-mêmes s'ils avaient des rudiments de codage et d'utilisation de l'informatique. Eh bien, ils construisent leur monde. Et ces mondes, eh bien, vont soit devenir des mondes publics ou des mondes privés. Il y a des mondes publics, des cafés, des jeux, enfin, etc. Et à côté de ça, vous avez toute une série de mondes privés qui sont aussi élaborés par les utilisateurs, pour lesquels vous devez avoir un pass pour entrer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vous ait communiqué le moyen d'entrer dans ce monde, et qui sont donc des mondes, qui sont d'ailleurs les mondes privilégiés par les utilisateurs habituels de ce genre de métavers, qui préfèrent les lieux privés où ils vont pouvoir...
Et on y fait quoi alors dans ces mondes privés ?
D'abord, on socialise énormément. Ce sont des lieux éminemment sociaux, avec beaucoup d'interactions sociales.
Ça veut dire qu'on discute, hein. on a le casque sur la tête, alors on peut discuter en temps réel avec les gens.
On est dans son salon en pyjama. Ce qui est intéressant dans VRChat, c'est que c'est votre voix propre qui est utilisée. Donc on reconnaît votre voix, mais votre présence est totalement médiée par celle d'un avatar, qui peut être aussi bien celle d'un chien, d'un loup, d'un robot, d'un champignon psychédélique, d'une anime girl. Enfin, vous savez, ce sont des paysages qui sont de prime abord assez étranges. Et donc, vous portez votre masque et votre casque de réalité virtuelle. Il y a toute une série de miroirs dans ces environnements qui vous permettent de vous rappeler que vous êtes désormais un avatar. Eh bien, vous allez rencontrer des gens. Il y a des églises, il y a des lieux de prière. Vous pouvez aller, si vous le souhaitez, découvrir des paysages dystopiques ou Berlin des années 20.
Mais c'est extrêmement
aller voir des dinosaures.
Vous
pouvez faire du golf, du badminton, piloter un avion, faire l'amour. Enfin, vous pouvez faire une multitude de choses à l'image de ce que vous pouvez faire dans la vie réelle.
Est-ce qu'on arrive à définir une sorte de profil des utilisateurs ? Parce que c'est vrai que spontanément, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était destiné au grand public. En tout cas, c'était ça l'idée que Mark Zuckerberg avait en tête. Aujourd'hui, qui est encore là-dessus ? Est-ce que ce sont des geeks, pour le dire un peu platement ?
La plupart. C'est-à-dire que le projet Zuckerberg, là, on peut le dire franchement, il s'est planté, cette idée que le métavers serait accessible à tout le monde aurait un casque de réalité virtuelle et pourrait travailler, se récréer et acheter dans cet univers-là. Ça, c'est un projet qui n'a, pour l'instant, pas fonctionné, mais on y trouve des communautés néanmoins très actives. VRChat, qui est la plateforme sur laquelle on travaille, a des millions d'inscrits et peut réunir au même moment 150 000 utilisateurs. Donc il y a quand même une masse d'utilisateurs qui sont principalement des jeunes entre 18 et 30 ans, majoritairement des garçons, des hommes, parce que nombre d'entre eux sont arrivés dans le métavers via l'utilisation des jeux vidéo. Donc il y a quand même...
Il y a quand même des ponts là.
Il y a des ponts entre les jeux vidéo, entre la passion pour la science-fiction, les jeux de rôle, parfois le cosplay, qui vont amener ces jeunes vers la découverte de VRChat. Il y a aussi des jeunes femmes, hein. Mais il y a davantage de jeunes hommes qui sont bien souvent des geeks, passionnés de technologie, parce qu'il faut bien le dire que l'utilisation du métavers aujourd'hui, ça requiert un savoir technologique assez conséquent. Il y a des bugs en permanence. Donc il faut connaître la technologie et les interfaces, etc. Sinon, on est perdu. Donc, effectivement, principalement des geeks. À côté de ça, on rencontre aussi, c'est assez intéressant, des gens eh bien, de ma génération, des cinquantenaires. On rencontre des soixantenaires qui vont sur VRChat dans des groupes de discussion, dans des groupes autour de quêtes identitaires particulières, etc. Donc, il y a certes démographiquement une majorité de jeunes européens, américains et japonais, mais il y a aussi des personnes de 40, 50, 60 ans.
Mmh. On parlait du fait de se créer un avatar, hein, possiblement très différent de son moi réel. Vous avez pu étudier ce que l'on appelle l'effet Proteus. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Ah, ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est un des aspects de notre recherche, c'est d'essayer de comprendre comment les gens s'attachent à leur avatar, qu'est-ce qui se passe dans ce lien qu'on a à l'avatar, qui est une espèce de masque, mais qui en même temps produit des effets. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un masque pour vous dissimuler, pour vous rendre anonyme, c'est un masque qui rend possible certaines choses. Et l'effet Proteus, eh bien, c'est un effet qui a été étudié initialement par des chercheurs aux États-Unis à Stanford, et qui a consisté à montrer que quand, eh bien, dans ces univers digitaux, les utilisateurs utilisent un avatar, par exemple, qui est plutôt colossal, grand de taille, eh bien, ça va avoir des effets sur leur comportement, sur le ton de leur voix, sur leur confiance en eux. Alors que quand on les associe à des tout petits avatars, eh bien, ils vont tendance à avoir adopté une voix plus douce, des attitudes plus timides. Et donc, tout ça pour vous dire que l'avatar a un effet sur la manière dont vous vous percevez vous-même, donc sur votre auto-identité, auto-identification, à tel point que des recherches ont été menées sur que se passe-t-il quand vous incarnez un avatar d'Einstein et que vous devez résoudre des formules mathématiques. Eh bien, il a été montré que quand vous incarnez l'avatar Einstein, vous risquez d'être plus rapide dans l'effectuation de tâches mathématiques. Voilà.
Incroyable. Donc ça veut dire que l'identité, elle est quelque part un peu malléable. Il y a une sorte de communication, en tout cas, entre notre identité virtuelle et notre identité réelle.
Oui, il y a une espèce de transfert entre votre corps humain et puis ce corps digital. Il y a des recherches aussi en psychologie qui ont montré, vous avez peut-être entendu parler de ces expériences sur la main de caoutchouc.
Non.
Eh bien, on met vos deux mains sur la table, on va cacher votre main gauche, à la place, on met une main en caoutchouc, donc vous ne voyez plus votre vraie main. Et on caresse doucement votre main en caoutchouc. Et puis tout d'un coup, on arrive avec un marteau sur cette main en caoutchouc. Et vous allez réagir comme si cette main en caoutchouc était la vôtre. Eh bien, c'est exactement
c'est
ce qui se passe.
C'est le toucher fantôme, en fait, c'est ça.
Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans ces univers-là. C'est-à-dire que le corps de l'avatar, eh bien, c'est votre corps. Il devient votre corps. Et donc, il y a une identification très forte à cet avatar. Ce n'est pas simplement une espèce de faux moi illusoire qui serait une espèce d'accoutrement digital. Non, la plupart des utilisateurs, ils construisent une relation dans la durée avec cet avatar. Bon, ils ont parfois plusieurs avatars, mais il y a un avatar en particulier qui leur est propre et dans lequel ils se reconnaissent. Et je vous donne un exemple. On discute un jour avec un jeune homme qui est sous les traits d'un avatar de chat et il me passe en revue ses différents avatars, et tout d'un coup, il s'arrête sur cet avatar-là, et il dit « Ah, ça, c'est moi. Je me reconnais dans celui-là, comme si je me regardais dans le miroir. » Mais pour montrer à quel point ce corps digital devient votre corps propre.
Mmh. Ça ouvre des perspectives incroyables aussi en matière, j'imagine, je ne sais pas moi, de formation ou bien de rééducation, lorsqu'on a pu se blesser. Enfin, quand j'entends ça, je me dis que les possibilités, elles sont énormes.
Oui, les possibilités sont énormes parce que ce sont des univers de simulation, donc vous pouvez simuler énormément de choses. Enfin, j'ai des collègues qui ont travaillé sur des personnes qui sont handicapées et qui, dans le métaphère, eh bien, peuvent marcher à travers leur avatar. Ou on sait très bien qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle est utilisée par des chirurgiens pour se former virtuellement à vivre des situations réelles, de la même manière que de nombreux psychologues aujourd'hui utilisent la réalité virtuelle pour familiariser certaines personnes anxieuses à leur phobie. Mm. Et que donc, l'exposition à une araignée virtuelle eh bien, permet petit à petit de dépasser l'arachnophobie. Mm.
Alors, est-ce que les communautés en ligne, le groupe, va se comporter différemment aussi? Parce que vous me disiez, par exemple, qu'en ligne, les avatars, ils sont plus tactiles que dans la vie réelle.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est une question intéressante parce que, d'un côté, vous allez voir qu'il y a des comportements qui sont très similaires à ceux de la vie réelle, comme on l'appelle. À côté de ça, il y a quand même des pratiques qui sont assez singulières, des aspects qui sont assez particuliers. Et c'est vrai que la dimension de la tactilité est très particulière dans ces univers. Vous devez imaginer que donc on est entre avatars, on est chacun dans son salon ou dans un espace dédié chez soi. On ne se touche pas physiquement. Mais par contre, nos avatars peuvent se toucher. Et nos recherches, et en particulier ma collègue Maria Yelofeva, a travaillé sur cette question du toucher dans le métavers et le fait que les avatars se touchent énormément. Alors, ce ne sont pas des touchés avec des connotations sexuelles spécialement. Ce sont des touchés, on se caresse la tête, on se touche le nez pour se dire bonjour, on se fait beaucoup de hugs. Et d'ailleurs, la plupart des utilisateurs vous diront que dans la vie réelle, ils ne le font jamais.
C'est comme si les codes sociaux étaient différents.
Les codes sociaux sont un peu différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des espaces où les gens dorment dans le métavers. C'est-à-dire, ils peuvent dormir. Et de nouveau, je le dis sans connotation sexuelle. C'est-à-dire c'est des espaces où les gens qui n'aiment pas dormir seuls, eh bien, vont pouvoir dormir en groupe, dans des espaces, des grands dortoirs. Alors, ils sont chacun dans leur lit, tout seuls, avec leur casque de réalité virtuelle, et puis des coussins à la maison. Mais ils sont dans des espaces partagés pour ne pas avoir le sentiment de dormir tout seul. Voilà. Donc, on rencontre quand même des comportements parfois un peu différents, mais qui sont très souvent, je vous dirais, sans doute destinés à remplir les manques émotionnels et affectifs que ces utilisateurs peuvent ressentir dans leur vie tous les jours, et que nous ressentons tous à bien des égards.
On se souvient qu'au début d'Horizon Worlds, il y avait tout un débat autour des agressions sexuelles dans le métavers. C'était arrivé, d'ailleurs. Pourtant, les avatars, ils n'ont pas d'organes génitaux, en tout cas pas de base. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. Toute la question du cadre juridique s'était posée aussi. Faut-il punir les agressions virtuelles? Et si oui, comment? On en est où, en fait, de ce côté-là?
Alors, il y a eu des... Effectivement, il y a eu des cas qui ont contribué à ternir aussi l'image du métavers. C'est un des aspects, je pense, qui a pu aussi contribuer à susciter un désintérêt pour le métavers, c'était que c'était des espaces qui apparaissaient comme complètement anarchiques, mal régulés, et notamment en termes d'interaction entre hommes et femmes ou entre personnes cisgenres et transgenres. Enfin, il y avait vraiment des situations d'agression, de harcèlement avérées, avec un débat autour. Et là, je pense que la plupart des juristes et des experts en sciences sociales étaient d'accord pour dire qu'une agression entre avatars est une agression, même si c'est
les conséquences psychologiques, elles sont là, dans le réel.
Puisque je vous ai décrit précédemment le rapport que vous entretenez avec ce corps digital qui devient votre corps, eh bien donc, oui, c'est votre corps, même si c'est une représentation électronique de votre corps, mais c'est votre corps propre qui est agressé par un autre corps propre, même si ce sont des corps qui sont simulés dans un espace digital. Donc, les plateformes en elles-mêmes ont été sommées de prendre des décisions et de mettre en place des mécanismes de régulation qui fait, par exemple, dans VRChat, qu'on peut bloquer des personnes. Il y a une fonctionnalité qui vous permettra d'empêcher les avatars d'approcher à plus de 10 ou 50 centimètres de vous, etc. Donc, il y a des mesures qui sont prises, mais ça reste néanmoins, en tout cas vers chat, des espaces un peu anarchiques, où il y a des mécanismes d'autorégulation qui se mettent en place, avec des communautés morales, d'ailleurs, de gens qui vous disent « Moi, ici, je joue le rôle un peu d'instance morale et c'est moi qui surveille, par exemple, à l'entrée du café, si tout le monde a plus de 13 ans, je vérifie qu'il n'y a pas de conduite qui pourrait choquer dans des espaces publics, etc. » Donc, il y a des formes d'organisation morale qui se mettent en place, mais qui ne sont pas gérées par les concepteurs de la plateforme eux-mêmes. La situation n'est pas aussi chaotique qu'elle pourrait en donner l'air.
C'est ça. Ouais. Et alors, juste pour préciser quelque chose, donc avec ces craintes d'agression sexuelle, au départ, les avatars donc, n'ont pas d'organes génitaux.
Oui. Ils ont des jambes.
Ils ont des jambes.
Oui. C'est-à-dire que avec les nouvelles technologies, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le full body tracking, c'est-à-dire vous avez vraiment un suivi complet de votre corps, pas simplement un casque, mais vous mettez des capteurs sur les épaules, sur les coudes, sur le torse, sur les hanches, sur les genoux et sur les pieds, et donc l'entièreté de votre corps est suivie en temps réel, et donc les avatars, la plupart du temps, sont des avatars qui sont entièrement constitués du haut jusqu'en bas. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'organes sexuels. Mis à part, il y a des groupes dans ces espaces, des groupes de jeux de rôle érotiques. Il y a des espaces sexualisés dans le métavers, qui ne sont pas tout le métavers, mais ça existe dans le métavers, des espaces privés, sexualisés, où là, eh bien, vous avez des avatars avec des organes génitaux, vous avez des rencontres sexuelles, érotiques, qui couvrent tout le spectre de la sexualité humaine. Et donc, vous avez toute une série d'outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez acheter, que vous allez pouvoir commander à des designers digitaux qui vont vous fournir des organes génitaux, des dildos, etc. etc. Voilà.
Vous avez observé ce genre de choses?
Pas personnellement, mais il y a quand même une littérature qui est en train de se développer sur le sujet. Il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur ces questions-là et qui ont vraiment fait de l'observation participante, qui ont été s'immerger dans ces univers-là. Ouais.
Alors, je vous ramène en 2021 avec l'essor du métavers, en tout cas tel que fantasmé par Mark Zuckerberg. Une autre technologie concomitante à l'essor de cela, ce sont les NFT. Ça va nous permettre d'aborder le volet économique du métavers, mais avant ça, Sarah Pousset nous réexplique ce dont il s'agit.
NFT, c'est l'acronyme en anglais de jetons non fongibles, c'est-à-dire des jetons irremplaçables. Par exemple, l'argent est fongible car je peux échanger un billet de 5 euros contre des pièces du même montant sans que cela ne change sa valeur. En revanche, un tableau de Picasso ne peut pas être remplacé par un Matisse ou une copie, c'est un bien unique. Le NFT, c'est donc un jeton lié à un code unique écrit par la blockchain qui vaut donc comme un certificat d'authenticité. Et ça, ça a été une petite révolution dans le monde numérique. Jusque-là, on se disait que les biens numériques étaient réplicables à l'infini. Par exemple, on peut tout à fait copier un document ou une image. Mais le NFT a introduit la notion de propriété privée dans le monde numérique. Car même si on peut toujours copier une image, grâce au jeton NFT et à son code, on peut retrouver le propriétaire de l'image originelle et considérer que toutes les autres images sur le web sont des copies. La valeur d'un NFT est donc basée sur la rareté du bien ou de l'œuvre d'art. Alors ce qu'il faut bien comprendre et qui est très différent du monde physique, c'est que si j'achète le NFT d'une œuvre d'art numérique, je n'ai pas pour autant de droits sur l'œuvre et je ne vais pas non plus recevoir un tableau physique. Tout ce que je peux revendiquer, c'est d'être propriétaire de l'œuvre que tout le monde peut voir sur le web. Sauf dans certains cas où les artistes, pour satisfaire les acheteurs, leur envoient des contenus supplémentaires comme des textes sur l'histoire de l'œuvre ou des posters, etc. Les NFT ne se limitent toutefois pas au marché de l'art. Je peux par exemple acheter des meubles créés par des marques de design uniquement virtuellement pour les utiliser ensuite dans des jeux vidéo comme Minecraft. Je peux aussi acheter des chaussures créées à nouveau uniquement numériquement par de grandes marques de mode pour habiller mon avatar dans le métaverse. La NBA a aussi lancé une sorte d'album Panini, mais en version vidéo, où on collectionne en fait les meilleurs moments filmés des joueurs. Encore plus étrange, certains NFT sont liés à des objets physiques. Le fils de John Lennon a ainsi vendu aux enchères plusieurs objets de son père via NFT. Donc des acheteurs sont devenus propriétaires des NFT d'une guitare de John Lennon, alors que l'objet, eh bien, il est resté chez son fils. Le monde de l'art numérique défend le modèle des NFT comme une relation directe entre artistes de partout dans le monde et acheteurs. On ne passe plus par des galeries ou des intermédiaires. Mais c'est aussi un modèle totalement basé sur la spéculation, à la fois financière, puisque certains NFT se vendent pour des millions de dollars, et puis sociétale, parce que c'est croire que ce monde virtuel va se consolider et qu'un jour, les biens que l'on aura achetés, eh bien, seront dans ce monde virtuel un vecteur de reconnaissance sociale.
David Berliner, on rappelle que vous êtes anthropologue et professeur à l'ULB. Vous travaillez donc sur les communautés virtuelles. Ces NFT, en quoi ça va changer la donne pour le métavers en 2021? Pourquoi les deux vont s'alimenter l'un et l'autre?
Ah ben parce que les métavers dont on parlait précédemment deviennent des lieux d'investissement. Très rapidement, les firmes s'y impliquent, Nike, Coca-Cola, les acteurs politiques, vous en parliez aussi, mais ça devient des lieux d'investissement privilégiés. Et désormais, puisque les gens se construisent une vie dans ces univers digitaux, eh bien ça passe aussi par des mécanismes économiques. Hein. Donc on peut acheter des terres, on peut acheter des biens, on peut acheter des ajouts pour ses avatars.
Et comment ça fonctionne? Ces NFT, c'est comme une monnaie virtuelle alors?
Oui, c'est une monnaie virtuelle et qui vous permet d'acquérir, c'est ça qui est intéressant dans la capsule que juste précédemment, c'est que ça vous donne un sentiment d'authenticité dans ces univers qui sont perçus principalement comme des univers de l'artifice, de la simulation. Eh bien, vous avez des biens numériques qui sont authentiquement vôtres. C'est à vous, c'est votre possession. Donc, ça réintroduit et c'est pour ça, je pense, que ça a suscité l'intérêt des investisseurs et des consommateurs. C'est que dans ces univers qui sont censés être des univers de la réplication, de la démultiplication, de la simulation, vous avez des biens précieux, authentiques, qui peuvent être authentiquement vôtres. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de succès.
Aujourd'hui, ça existe encore, ces NFT?
Oui, ça existe encore.
Juste pour des objets plaisir, ou bien c'est encore... Vraiment, il y a des gens qui spéculent encore?
Il y a des gens qui spéculent encore, il y a des gens qui spéculent. Vous pouvez acheter une propriété à côté de la propriété de Snoop Doggy Dogg dans Sandbox. Vous pouvez, notamment autour des œuvres artistiques, vous pouvez continuer à acheter des copies authentifiées d'œuvres célèbres ou des capsules vidéo des meilleures séquences de matchs de la NBA.
C'est ça, ce marché-là, en tout
voilà,
cas,
qui sont authentifiés pour vous. C'est
toujours
ça qui rend le NFT attractif, c'est que c'est pour vous.
Alors, on arrive tout doucement au terme de cette émission, hein, David Berliner. On observe pas mal de rétropédalage sur les métavers aujourd'hui, on l'a dit. Certains enlèvent la réalité virtuelle, d'autres, il y en a carrément qui ferment. On en est où?
Alors, c'est le constat n'est pas glorieux. Hein. C'est-à-dire, le problème, ça a aussi été l'effet d'annonce de Zuckerberg qui annonçait en 2021, Nous sommes face à une révolution technologique majeure. L'avenir d'Internet, c'est le métavers. Et évidemment, eh bien, aujourd'hui, face à ces déclarations et ces investissements colossaux, c'est une grande déception pour les investisseurs, pour les ingénieurs et pour tous ceux qui ont contribué à tenter de le produire. La plateforme de Microsoft Altspace a été fermée. La plateforme Horizon de Meta n'est pas complètement fermée, mais elle est totalement déserte. Et tout le projet qui consistait à utiliser des casques de réalité virtuelle dans ces environnements-là a été abandonné. Second Life avait tenté de se transformer en un métavers avec la réalité virtuelle. Ça a été abandonné aussi. Aujourd'hui, Second Life, alors qu'il y a encore 10 ans, pouvait réunir 8 à 900 000 personnes, aujourd'hui c'est 30 000 personnes. Donc il y a vraiment une espèce de désintérêt, de désaveu autour de ces métavers, même si il y a quand même encore un groupe, un rock de gens qui sont des fans et qui continuent de les utiliser. Alors, pourquoi ?
Oui, pourquoi ? C'est la question suivante.
C'est bien ça la question. Je pense qu'après la pandémie, déjà les gens, même si cet outil s'est montré extrêmement utile en contexte de pandémie, les gens avaient envie d'interaction face à face. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là. Je pense qu'au niveau technologique, les produits ne sont pas au point. Le casque est trop lourd, il chauffe, c'est extrêmement fatigant pour les yeux, ça donne des migraines, ça peut vous donner la nausée. Et aussi, un autre aspect, c'est qui avait été mis en avant par Zuckerberg et qui n'est pas abouti, c'est aujourd'hui, c'est l'interopérabilité des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes sont souvent étanches les unes aux autres.
Il n'y a pas de pont, en fait, entre les différents métavers.
Vous ne pouvez pas avoir un avatar qui va vous suivre partout, dans tous ces métavers. Donc, chaque fois, pour chaque plateforme, vous devez recréer un avatar qui est différent. Donc,
ça c'est fastidieux, ça.
C'est vraiment fastidieux. Et donc, c'était trop fastidieux pour un usage qui avait été pensé par Zuckerberg comme un usage quotidien où on rentrerait de la maison, on mettrait directement son casque, au travail on aurait son casque tout le temps sur la tête, etc. Il y a des recherches qui ont montré que des travailleurs ont été exposés à ce genre de pratiques, et ils étaient épuisés à la fin de la journée, ils avaient des crises d'angoisse, etc. Donc, clairement, toutes ces dimensions ont fait qu'on est probablement encore dans une phase préhistorique du métavers. Et puis, je pense qu'il y a aussi, à l'égard de nouvelles technologies, toujours une forme de panique morale qui fait qu'on se dit c'est pour les gens qui sont désocialisés, paumés, etc. C'est pas pour moi. Voilà, tous ces éléments mis ensemble eh bien, font que le métavers n'a pas encore décollé.
Vous dites pas encore, ça veut dire que demain, vous pourriez imaginer que ça reprenne.
Ouais. Je suis convaincu et pourtant je ne suis pas un techno-optimiste particulièrement. Je ne me projette pas dans ces mondes-là avec des lys, voilà. Mais je suis convaincu qu'une fois que la technologie sera beaucoup plus accessible, beaucoup plus légère, on peut s'imaginer que dans quelques décennies, on ne parle pas de demain, mais ces technologies pourront peut-être reproduire la fidélité expérientielle, perceptuelle d'interaction que nous avons ici. Voilà. Et ça, ce sera un gros problème social, politique et éthique qu'il nous faudra gérer le temps venu.
Les métavers ne sont donc pas morts. Non seulement ils existent encore et sont des lieux importants de socialisation ou de découverte identitaire pour certains, mais en plus, on l'entend, il n'est pas exclu qu'ils reviennent un jour au devant de la scène avec de meilleures performances techniques. Ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est qu'il faut bien se garder de regarder ces espaces de haut, tant ce qu'on peut y vivre est manifestement proche de la vie réelle, dans la tête certainement, et dans le corps, dans une certaine mesure. Considérer cela comme une pratique exclusivement marginale nous ferait sans doute passer à côté de ce qui, visiblement, constitue une véritable expérience humaine. Alors oui, dans des modalités dont on ne sait pas encore tout, mais qu'il vaut la peine d'analyser. Merci à David Berliner de nous avoir exposé ses recherches. Il est professeur et anthropologue à l'ULB. À la réalisation de cette émission, avec plein de morceaux de science-fiction dans sa besace, il y avait Valentine Gourdange. À la préparation, Sarah Pousset, qui a accepté de se plonger courageusement dans les NFT. Et Marie-Vaine Kutsem pour vous servir. Merci à vous, merci pour votre écoute. À très bientôt.